Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.
C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Bulle, la radio de la Genêt avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 19h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Radio Bulle.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, eh bien nous allons avoir le plaisir de recevoir dans un tout petit instant l'équipe du film Tanguy le retour qui sort mercredi dans les salles. À cette occasion, nous allons recevoir le réalisateur Étienne Châtilliez et Éric Berger, le héros de Tanguy évidemment. 16 ans après, eh bien c'est le grand retour de Tanguy au cinéma. Et puis nous allons consacrer une page coup de cœur télé cette semaine à nos séries quotidiennes. Vous les adorez évidemment. On va commencer par Plus belle la vie et celle qui joue le rôle de Barbara Evenot, eh bien c'est Léa François qui sera notre invitée. L'héroïne de la série Ainsi Grand Soleil sera également avec nous. Mélanie Maudran nous fera le plaisir de passer quelques minutes en notre compagnie. Et puis pour la série Demain nous appartient, c'est Franck Monsigny alias Martin Constant qui sera notre invité. Nous parlerons également du documentaire qui sera diffusé demain soir sur France 2 Narcotrafic avec Pauline Liétard, la réalisatrice du documentaire qui nous dira tout sur comment elle l'a monté. Justement, ce documentaire, comment il a été réalisé, comment a-t-elle fait pour obtenir tous ces témoignages? Réponse donc tout à l'heure avec Pauline. Alors, vous l'avez vu, c'est une émission chargée, comme d'habitude, qui nous attend. Et on va tout de suite bien commencer avec les audiences de la semaine dernière, si vous le voulez bien.
Les tops et flops d'audience.
Et on commence tout de suite avec lundi dernier, le final des Bracelets Rouges qui ont laminé la concurrence. C'est un très beau score pour le final, 5 409 000 téléspectateurs et 25% de part de marché. Marie au premier regard sur M6 s'en sort bien, 2 320 000 et 10,6% de part de marché. C'est la cata pour France 2 et Trapt avec simplement 1 679 000 téléspectateurs. Et pas mieux non plus pour France 3, il faut pas rêver avec seulement 1 410 000 téléspectateurs. Et puis mardi, il y avait le Capitaine Marlowe sur France 3. Alors là, c'est un carton absolu. Quasiment 30% de part de marché. 6 905 000 téléspectateurs. Autant vous dire que pour les autres, il reste les miettes. L'arme fatale sur TF1 a dû se contenter de 3 285 000 téléspectateurs pour 14,7% de part de marché. Même le foot ne fait pas recette. Lyon-Rennes a attiré seulement 2 508 000 téléspectateurs. Et un score en baisse pour Un avion sans aile sur M6 avec seulement 2 129 000. Mercredi avec Grey's Anatomy sur TF1, petit leader avec seulement 16,2% de part de marché, 3 565 000 téléspectateurs. Toutes les autres chaînes sont dans un mouchoir de poche. La disparition sur France 2 atteint 2 769 000 téléspectateurs. Des racines et des ailes consacrées à notre région du Poitou aux Charentes a seulement réalisé 2 748 000 téléspectateurs pour 12,7% de part de marché. Et Top Chef s'en sort à peu près bien avec 2 600 000. 49 000. Et jeudi, section de recherche sur TF1 qui arrive en tête des audiences avec 4 587 000 téléspectateurs et 22,1% de part de marché. Et c'est 9-1-1 sur M6 qui arrive deuxième avec 2 261 000 téléspectateurs. Et puis l'émission politique de France 2 ne fait pas recette, seulement 1 619 000 téléspectateurs. Beau score pour TPMP qui fêtait ses 9 ans, par contre 1 308 000. Vendredi, Koh-Lanta arrive en tête, évidemment sans surprise. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière. On accueille tout de suite l'équipe de Tanguy.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre spécial Tanguy, le retour démarre dans Chut, on écoute la télé. Et nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir eh bien, son réalisateur, Étienne Châtilliez. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis Éric Berger, le héros Tanguy. Bonjour Éric.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Vous aimez qu'on vous appelle Éric ou Tanguy dans la rue?
Dans la rue, Tanguy. J'aime bien qu'on m'appelle Tanguy, je trouve ça chouette.
C'est un personnage complètement assumé, 17 ans plus tard, un retour pas prévu, et ce film qui sort là dans 2 jours. Étienne, qui a eu l'idée de cette suite et comment c'est arrivé?
C'est des producteurs qui ont eu envie de revoir les personnages de Tanguy, c'est-à-dire les parents et le fiston. Et donc, moi j'y avais jamais pensé, donc on s'est mis au travail avec mon camarade Laurent Chouchan. Et voilà, c'est chaud, c'est prêt. Ça sort.
Exactement, c'est chaud, c'est prêt, ça sort. Et comment on fait 17 ans après pour retrouver cette famille avec les mêmes sensibilités, avec les mêmes caractères? Parce qu'évidemment, nos personnages ont évolué, que ça soit Éric, André Dussolier ou Sabine.
Eh ben écoutez, on prend l'ADN de Tanguy, qui est un garçon tout à fait spécial et qui a une petite pathologie, pas facile à régler. Des parents qui sont charmants, cultivés, fins, qui vivent une deuxième jeunesse parce qu'ils sont tranquilles depuis 16 ans. On met ça dans le mixeur et on shake.
Eric, quand on vous a dit, allez, on y retourne, est-ce que tu veux refaire Tanguy ? Qu'est-ce que vous êtes dit là ?
J'ai sauté au plafond, j'ai sauté en l'air parce que j'étais dans la rue, mais je me suis dit, ah chouette, quelle bonne nouvelle. Pourvu que je n'ai pas mal entendu.
Et puis finalement, voilà, ça y est, ouais. C'est fait. Et moi, j'ai entendu, hein, lors des avant-premières, les gens réclament déjà un 3. Comme quoi, voilà, il y avait vraiment une envie de retrouver ce personnage.
Ils sont gourmands, les gens. Ils sont gourmands. Ils ont raison.
Alors, Étienne, on retrouve évidemment 17 ans plus tard toute cette famille avec un Tanguy qui s'est, enfin, les parents se sont enfin débarrassés de lui. Et puis, ben là, d'un seul coup, voilà, il revient, plaqué par sa femme chinoise. Et là, eh bien, ils ne savent plus comment ils vont faire pour s'en débarrasser. Enfin, du moins, pas au départ. Au départ, ils sont contents de l'accueillir.
Ben oui, parce que c'est des bons parents. Ils accueillent un fils qui est au sol de ce qui lui arrive. Et puis, ils ont oublié un peu tout ce qui s'est passé.
Eric, retrouver André et Sabine comme ça 17 ans plus tard, on retrouve tout de suite les automatismes, le jeu qu'on a pu avoir avec eux il y a 17 ans.
Tout de suite. Tout de suite. Il n'y a pas une course d'élan, il n'y a pas un pied d'appel, c'est tout de suite. On reprend nos sacs exactement où on les a posés. C'en est surprenant parce que sur le plateau, on était obligé de faire souvent un effort mental pour se rappeler que 18 ans nous séparaient du précédent tournage qu'on avait vécu ensemble. Mais on le voyait pas, on sentait pas, on se rendait pas compte. Il fallait faire un effort pour y repenser.
Eric, cette suite là qui sort dans deux jours, on retrouve un Tanguy plus mûr. Quoique, à certains moments.
Un peu moins de cheveux et quelques kilos en plus, c'est dit dans le film.
Voilà, tout est dit et assumé, Étienne.
Ah ouais, complètement. De même que les personnages de Sabine et André ont les petits tracas de leur âge, parce qu'on raconte des histoires fausses. Il faut des morceaux de vraie vie pour faire croire à une histoire fausse. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de parler du pays dans lequel je vis, d'observer mes contemporains, d'avoir une petite satire de qui nous sommes. Critique dont je ne m'exclus pas du tout, de parler de nos comportements et comment on réagit. Là, c'est un exemple extrême, mais malgré... On n'a pas besoin de vivre ça pour sentir ce qui se passe, pour se retrouver dans ce qui se passe dans toutes les familles, en gros.
Alors, si Eric a sauté au plafond en apprenant cette suite, comment ont réagi Sabine et André ?
André, il était dans la boucle depuis le départ, puisque c'est par son intermédiaire que les producteurs m'ont contacté. Ben, Sabine et André, ils sont venus... Personne n'est venu à reculons, je tiens à le dire. Et personne n'est venu de façon commerçante non plus. Tout le monde avait envie. On peut pas faire des choses si on n'a pas envie de les faire. Et l'envie était vraiment là, depuis l'écriture du scénario avec le scénariste Laurent Chouchon jusqu'à l'interprétation des comédiens. Tout le monde était vraiment... C'était un engagement... commun, je dirais.
Alors, on sent Sabine qui a fait des films dramatiques aussi. On sent pour elle un film comme ça, et elle le disait lors des avant-premières, c'est une soupape pour elle de jouer dans des comédies comme ça.
Oui, Sabine, elle sait ce que c'est que la comédie, elle l'a dans les jambes. Et en même temps, il faut pas trop faire le distinguo entre la comédie et le drame, parce que c'est un drame, c'est même un film d'horreur, ce qui se passe dans celui-ci.
C'est un alien, ce Tanguy.
Ouais, non mais c'est une bactérie, il a raison. C'est un bonheur d'avoir trois comédiens de cette dimension-là. Eric était déjà spectaculaire en 2001, et je trouve qu'en plus, il est au sommet de son art. Et je pense que Tanguy doit beaucoup à l'interprétation d'Eric.
Eric, est-ce que pour le coup, vous êtes conscient d'avoir marqué toute une génération qui c'est devenu presque un objectif en disant quelqu'un qui est chez lui, un enfant qui est encore chez lui à 25-30 ans, mais tu vas pas faire ton Tanguy. On dit même plus, on le nomme carrément.
Moi, je n'ai aucune conscience de ça, je ne m'en préoccupe pas du tout. Moi, je suis comédien, j'ai joué un rôle qui s'appelle Tanguy, et ce rôle, maintenant, il appartient à ceux qui veulent bien s'en servir à un certain moment. On rappelle quand même à chaque fois que les gens qui restent chez leurs parents le restent à cause de sanctions économiques, parce que dehors, c'est trop dur, c'est trop cher, etc. Et nous, notre Tanguy, la petite différence, c'est qu'il n'a pas du tout de problème d'argent. C'est pour d'autres raisons plus mystérieuses qu'il reste chez ses parents.
Eh bien, peut-être. Allez, on va écouter la bande-annonce. Tanguy le retour, c'est mercredi dans les salles. Écoutez.
I'm filling up my Christmas list with gifts for girls and boys.
Oui.
Oh, champion!
There's really things and candy dreams and they're...
Bon. Oui?
Maman!
Tanguy?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là?
Béline m'a quitté.
C'est toute ma vie qui s'écroule.
Tiens, ils sont en douche.
Excusez-moi, je me sens pas très bien. Je crois que je vais me coucher.
Je croyais que t'étais parti te coucher hier soir.
Mais Bruno m'a appelé. Il a insisté pour que je le rejoigne dans un bar. C'était nul.
C'était nul. Jusqu'à 6h du matin.
C'est qu'il va mieux.
Exactement, il va mieux. Beaucoup mieux que ce qu'il prétend.
Il va pas guère, cet appartement.
Il a retrouvé le nid.
Je parle même que je le préfère à l'ancien.
Qu'est-ce que c'est?
D'après toi?
Je suis désolé, je voulais pas déranger Chou.
En revanche, c'est pas un problème. T'as raison, Edith. On est en train de se faire enfler. Dis-moi, le temps passe, mais t'as pris une décision?
Une rupture, c'est comme un deuil. Ça dure un an.
Parce que tu comptes rester ici un an?
L'enculé! Il aurait pu prendre un appart depuis longtemps, hein!
L'essentiel, c'est qu'il dégage.
Allez, on va poursuivre notre spécial Tanguy dans un instant après cette bande-annonce. Éric Berger et Étienne Châtelier sont avec nous. Vous restez?
Oh, bah, bien sûr qu'on reste.
Bah oui, qu'on reste.
À tout de suite, dans 3 minutes.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour pour notre spécial Tanguy, le retour. Voilà, je fais un double jeu de mots. Mercredi dans les salles. Comment se sent Étienne justement à 2 jours de la sortie d'une suite comme ça, très attendue en plus?
On se sent bien parce qu'on est content de ce qu'on a fait. Mais maintenant, on va voir si on s'est trompé ou si c'est pas trompé. Non, mais on se sent bien. J'imagine même pas que c'est dans 2 jours.
Eric?
Ouais, pareil. Et puis en plus, c'est un moment assez délicieux parce qu'on se dit que tout est encore possible. Il n'y a pas de sanctions, on est bien.
Quelle a été la scène la plus drôle pour vous?
Bah, toutes, c'est pareil, c'est comme si vous me demandiez de choisir entre mon fils et ma fille, mais je crois que la scène où je... Ah bah non, je peux pas la raconter. Si je la raconte là, je raconte un bout du film. Non, je peux pas vous dire. Il y a une certaine scène dans une... avec des lits d'hôpitaux qui m'a beaucoup amusé à tourner. Voilà.
Oui, c'est vrai. Moi, il y a une scène de vélo qui a rendu la salle hilar. On n'en dit pas plus, Étienne, mais celle-là a dû être assez drôle à tourner avec André et Sabine.
Oui, parce que c'est... Pourquoi c'était drôle, je ne sais pas. Non, mais moi, ce que je veux dire par rapport à 2 jours de la sortie, c'est qu'on a assisté à des avant-premières payantes, je tiens à le dire, c'est-à-dire du vrai public, et que pour nous, c'est vraiment la récompense, avoir la réaction de la salle.
Et des salles pleines, faut quand même le spécifier.
Des salles pleines, c'est là où on peut se rendre compte si on fait mouche ou si on fait pas mouche. Donc en fait, la sortie d'un film, c'est un bonheur parce que c'est enfin retrouver les réactions du public.
Exactement.
Et un truc qui est très étonnant au cinéma, c'est qu'on dit une réplique et elle fait rire un an après. Et c'est assez insensé, ça.
Le souvenir qui est revenu le plus, justement, lors du 1, quelle a été la réplique culte qui est revenue comme un boomerang pendant des années après?
Ferme la fenêtre.
C'est vrai, celle-là, elle était pas mal.
Ouais, elle était envoyée d'une façon bien dynamique. Enfin, moi, c'est celle que je garde, en tout cas.
Ferme la fenêtre!
Étienne, je pense qu'il y en aura d'autres, hein, des répliques cultes qui resteront de ce retour. Il y a une réplique de Sabine qui vous marquera dans le film. On n'est pas obligé d'en dire plus. Mais voilà, il y a une réplique de Sabine concernant la femme de Tanguy qui va marquer, je pense.
Ouais, parce que c'est décrit un peu une famille typique avec la mère qui est toujours un peu excessive, de parti pris, toujours pour son fils et contre sa belle-fille. Il y a un père qui est un tout petit peu plus distancié, qui prend les choses avec un peu plus d'ironie. J'ai l'impression que c'est la place dans la société du père et de la mère. On essaye de décrire un peu ce qui se passe partout, quoi.
Est-ce que vous avez des projets, tous les deux, d'autres projets? Est-ce que vous avez envie, en tout cas, si ce 2 reçoit l'accueil que vous espérez, est-ce que vous avez envie d'y retourner? Est-ce que vous avez envie de continuer les aventures de Tanguy pour une suite, maintenant que le 2 est enclenché?
Je sais pas, c'est difficile, il faut qu'on profite de celui-là, qu'on le voit naître et qu'on le voit grandir, on verra. Après, l'envie de tourner avec Étienne, oui, moi c'est tout le temps, c'est quand il veut et sur ce qu'il veut, donc je m'en fous, quoi.
Moi c'est clair.
Ah bah non, c'est bon d'entendre ça, mais on a déjà tourné autre chose ensemble, La Confiance règne, qui n'avait pas été un grand succès, mais qui avait été un grand bonheur. Et c'est vrai que pour moi, tourner avec des gens avec qui je m'entends, qui comprennent la même chose que moi et qui ont le même tempo que le mien, eh ben ça fait gagner du temps, c'est comme dans la vie, hein. Qui se ressemble, s'assemble.
Est-ce que c'est plus pointu d'être réalisateur de comédie?
Oui, bien évidemment, mais je le redis, je pense que toutes les comédies sont des drames, surtout les comédies ratées, mais on traite de sujets profonds de façon légère, mais on traite de vrais problèmes et l'humour est une façon d'atteindre les gens. Et c'est ça qui est formidable.
Tanguy, Le Retour, c'est le film à ne pas rater. C'est dans les salles, mercredi. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, Étienne et Eric?
Amour, gloire et beauté.
Bah oui, amour, gloire et beauté. On prend les trois. On prend le pack dans son ensemble.
Et succès et spectateurs au rendez-vous. Voilà, on vous le conseille. On va se quitter avec un petit extrait. Merci à tous les deux d'être passés nous voir dans Chute, on écoute la télé. Tanguy, Le Retour, c'est mercredi au cinéma.
Merci.
Merci.
Devinez qui revient à la maison.
Je t'aime, maman.
Moi aussi, mon chéri.
Et je t'aime, papa.
Moi aussi, mon poulet.
Promis ?
Promis.
Le 10 avril, au cinéma.
Indiscrétion, scoop.
Scoop.
News.
Tout de suite, l'infomédia.
Et tout de suite, l'infomédia, donc, de cette semaine. Et on va commencer par parler de Thalassa. Thalassa, est-ce le début de la fin pour le magazine Thalassa? Eh bien, après avoir perdu son rythme hebdomadaire, après avoir perdu sa case historique du vendredi, il pourrait désormais quitter le prime pour être exilé le dimanche après-midi. C'est en tout cas ce qu'affirme un communiqué de la CGT de France Télévisions. Cet arrêt de mort a été prononcé par Takis Candidis, directeur des programmes de France Télévisions. Le magazine de la mer est désormais promis à une case du dimanche après-midi, un sursis précaire. L'itinérance et une périodicité variable n'ont jamais été la meilleure façon de consolider une audience. Alors lassé par la tournure que prenaient les événements, beaucoup de salariés de Thalassa ont déjà en partie largué les amarres vers d'autres horizons. La péniche est elle-même déserte et ce qui reste de l'équipe a trouvé un refuge provisoire dans un immeuble sans âme en face du paquebot France Télévisions. C'est plutôt une mort lente mais pas sans douleur qui est en train de s'annoncer pour le magazine. Corinne Maziroux, et c'est la surprise de la semaine dernière, la vedette de Capitaine Marlowe, qui fait les beaux jours de France 3 avec ses quasiment 7 millions de téléspectateurs, avec le Capitaine Marlowe, donc, va jouer le rôle star dans Colombine, un téléfilm de TF1 dont le tournage commencera d'ici quelques jours au Sénégal, a-t-on appris auprès de la chaîne privée. Avec Colombine, les fans de Corinne Maziroux retrouveront l'actrice dans un rôle particulièrement truculent. Elle incarnera une religieuse à fort tempérament, buveuse de whisky à la gâchette facile, qui dirige un dispensaire en Afrique. Elle va être amenée à former un tandem détonnant avec Mélia, une doctoresse parisienne un peu coincée, jouée par Annabelle Langrone, qu'on a vu dernièrement dans le film Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi. Le casting de ce téléfilm réalisé par Dominique Baron inclut également Noum Diawara, que vous avez adoré dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et Jimmy Wawa, qu'on a, vous avez vu dans la première et la deuxième étoile de Lucien Jean-Baptiste. Cyril Hanouna était l'invité de Jean-Marc Morandini la semaine dernière dans le Morandini Live, l'occasion pour lui de revenir sur la série produite par l'animateur et producteur Les Ombres Rouges et lui a demandé s'il était content du résultat et surtout s'il y aurait une suite, des questions auxquelles Cyril Hanouna a répondu. On est assez content du résultat car avec les replays, la moyenne est à plus de 900 000 téléspectateurs, donc à 95%, oui, il y aura une saison 2. Et d'ajouter, c'est génial parce que même si j'ai laissé les équipes qui savaient faire la fiction, je voulais absolument faire de la fiction, il ensuite annoncé qu'ils étaient en train de développer une fiction courte sur C8 avec H2O pour l'accès à la rentrée septembre. Pour rappel, Les Ombres Rouges, c'est une série policière qui raconte l'histoire d'Aurore Garnier, officier de police dont la sœur a été enlevée 25 ans plus tôt à l'âge de 5 ans. Elle découvre lors d'une enquête que sa sœur Clara est toujours vivante mais qu'elle a tout oublié de son passé. En parlant toujours de Cyril Hanouna, c'est le jeudi 25 avril prochain en prime time que la grande Rasra 4 va donc être de retour sur C8 pour ce quatrième volet. Célébrités, chroniqueurs et anonymes ont été encore pris au piège dans des caméras cachées complètement folles. Sophie Davant, Doc Gynéco, Delphine Westpisser ainsi que Drake et Rihanna, plus vrais que nature, ne sont pas prêts d'oublier les scénarios de Baba. Et ça, eh bien, c'était la bonne nouvelle de la semaine, ou pas. Le jeudi 25 avril prochain, 21h, une émission culte va faire son retour sur W9, c'est l'île de la Tentation, présentée par Julie Taton. Je vous rappelle le principe, 5 couples déterminés à mettre leur histoire d'amour à l'épreuve, enfin même plus qu'à l'épreuve, viennent sur l'île tester leur amour et leur fidélité par la même occasion, et tenter de répondre à ces questions que nous nous sommes tous posées à jour. Notre amour est-il assez sincère pour aller plus loin ensemble, pour obtenir les réponses aux questions qu'ils se posent et qui les empêche d'avancer? Ces 5 couples vont passer 2 semaines en République Dominicaine, séparés les uns des autres. Ils ne pourront ni se voir ni communiquer. Les hommes vont vivre dans une maison avec 10 femmes célibataires prêtes à tout, et les femmes dans une autre villa avec 10 hommes célibataires, tous plus beaux les uns que les autres, qui cherchent aussi une véritable histoire d'amour. Et enfin, les ministères de la Culture et des Sports ont lancé une consultation citoyenne pour moderniser la liste des événements sportifs protégés que la loi oblige à diffuser gratuitement, afin notamment d'améliorer la visibilité du sport féminin et du handisport. Selon un communiqué, Franck Riester, le ministre de la Culture et la ministre des Sports ouvrent une consultation publique afin de recueillir les observations des citoyens et acteurs concernés par la retransmission télévisée des événements d'importance majeure. Il faut savoir qu'en France, 21 événements sportifs sont protégés par ce décret du gouvernement qui régule leur retransmission pour permettre au plus grand nombre d'y accéder et figure notamment les Jeux Olympiques, la finale du mondial de football, le tournoi de rugby des Six Nations ou encore le Tour de France qui doivent être absolument diffusés sur des chaînes gratuites.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on va démarrer par ce soir sur TF1, Joséphine Ange Gardien avec un tout nouvel épisode inédit, l'incroyable destin de Rose Clifton. Joséphine est envoyée en plein Far West pour aider Rose, dont le mari Jack, patron d'un saloon, s'est pendu. La jeune femme reprend les rênes de l'établissement. Extrait.
Elle, c'est Rose Clifton, ma cliente. Oui, oui, je suis en plein western, avec des cow-boys, des flingues, des vrais méchants, des comme dans les westerns, quoi. Mais bon, faut que je vous explique un peu comment Rose en est arrivée là. Allez hop, on revient une semaine en arrière. Je devais travailler comme barmaid au saloon de Jack, le mari de Rose. Mais il a eu la mauvaise idée de se pendre un mois avant que j'arrive. Pour Rose et sa fille Lucie, ça a été terrible. En ville, on les plaint, on s'apitoie, mais on chuchote aussi. Comme si le malheur était contagieux. Moi qui croyais que ça allait être une mission facile, que j'allais pouvoir m'amuser à tirer sur des boîtes de conserve, eh ben, j'avais tort.
Et ce soir également sur Canal+, dans nos coups de cœur télé cette semaine, Vernon Subutex, la toute nouvelle création originale Canal+, avec au casting Romain Duris ou encore Céline Salette. Vernon Subutex, un disquaire parisien au chômage, est réveillé un matin par un huissier venu l'expulser de son appartement. En quête d'un endroit où dormir, Vernon demande de l'aide à Alex Bleach, un vieil ami devenu rockstar. Romain Duris incarne avec sensibilité ce personnage à la dérive. Bande-annonce.
Je me souviens, on entrait dans le rock comme dans une cathédrale. On écoutait de la musique. C'était la dernière aventure du monde civilisé.
Vous êtes Monsieur Subutex Vernon. Je vous demande de quitter les lieux.
Hé, hey, invitation backstage au concert d'Alice Beach ce soir. Hey, ah là, vous êtes surpris.
Je suis pas à la rue, ok?
Subutex!
C'est mon testament, mec. Je te le laisse à toi. Je peux me barrer tranquille.
Alex Beach est mort cette nuit des suites d'une overdose.
Pourquoi vous intéressez tellement à cet enregistrement?
Il a un dossier compromettant sur moi. Je peux pas laisser ça dans la nature, c'est hors de question. Tu me le retrouves, d'accord?
Hey!
Alors c'est vous, Monsieur Revolver?
Dégage.
Ben, entre.
Allez, on continue nos coups de cœur avec évidemment un grand coup de cœur demain soir sur France 2 avec un documentaire inédit, Narcotrafic, la nouvelle guerre. Un documentaire réalisé par Pauline Yétard qui est justement avec nous et qui va plus nous en dire. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors que va-t-on apprendre, que va-t-on voir dans ce documentaire consacré à la véritable histoire pour le coup du narcotrafic en Colombie, hein?
Alors c'est pas qu'en Colombie, en fait c'est une grande fresque qui part de l'après-seconde guerre mondiale avec la French Connection jusqu'aux cartels mexicains qui sont les grands trafiquants de drogue actuels. Et en fait on voit qu'on part d'un petit artisanat qui est le fait de trafiquants marseillais, souvent en Corse d'ailleurs, et qu'on est arrivé aujourd'hui à des véritables multinationales qui engrangent des milliards avec le trafic de drogue et qui inondent la planète de leurs produits.
Alors vous êtes intéressé particulièrement au destin de celui qu'on surnomme El Chapeau?
Oui, c'est ça. Qui est un trafiquant, le plus grand baron de la drogue actuelle dans le monde, qui a été arrêté à de multiples reprises, qui est connu pour ses évasions spectaculaires, notamment parce qu'il il arrive toujours à construire des tunnels. Il s'est échappé comme ça plusieurs fois. Et aujourd'hui, il est derrière les barreaux et un grand procès a été organisé aux États-Unis. Et c'était une capture majeure pour les Américains.
Comment vous avez eu l'idée de la réalisation de, et comment est né le projet, hein, de ce narcotrafic, la nouvelle guerre?
Alors moi, c'est un projet qu'on m'a confié pour le compte de France 2. Et très vite, on s'est dit que ce qui était intéressant, c'était vraiment de montrer le changement d'échelle, en fait, qui a eu lieu sur un temps très court, puisqu'on parle d'une cinquantaine d'années. Et c'est sur deux générations. Dans la génération de nos grands-parents, la drogue n'avait pas du tout la place qu'elle a actuellement au quotidien. Et je trouvais ça vraiment très intéressant de montrer voilà, ce changement d'échelle, de dimension, et surtout aussi côté trafiquant, comment la violence et les profits, puisque c'est proportionnel, ont vraiment pris une place énorme et augmenté de manière considérable, quoi.
Combien de temps vous avez travaillé sur le projet? Parce que vous avez eu un nombre incalculable de témoignages que vous verrez dans ce documentaire.
Alors j'ai travaillé quasiment un an sur ce documentaire. En fait, pour notamment obtenir les témoignages des protagonistes les plus légitimes sur ce sujet, parce que on voulait que l'histoire soit racontée par les acteurs du trafic, que ce soit les ou les acteurs de la lutte contre ce trafic, parce qu'on a aussi beaucoup de policiers, notamment les vrais Murphy et Peña, ceux qui sont les héros de la série Narcos pour les fans, les trafiquants, les hommes de main, les politiciens. On trouvait ça important d'avoir les interlocuteurs les plus légitimes, plutôt que des biographes. On trouve ça toujours plus fort d'avoir voilà, ceux qui l'ont vécu de l'intérieur.
Est-ce qu'il y a des témoins qui ont été plus difficiles à convaincre que d'autres pour témoigner comme ça, visage découvert?
Oui, notamment on a un ancien membre du cartel de Sinaloa, le cartel d'El Chapo, et lui c'était compliqué, il témoigne très rapidement, mais après en off il m'a livré pas mal d'éléments, mais on l'a mis en anonyme dans le film. Il y en a un autre aussi, un policier qui était vraiment menacé, et dans ces cas-là, quand il y a vraiment des dangers de mort, comme c'est le cas au Mexique, puisque c'est le deuxième pays le plus meurtrier après la Syrie, on sait que c'est des paroles qui sont voilà, très précieuses, fragiles, et c'est dangereux pour témoigner, et à ce moment-là, on les convainc en leur assurant une protection maximale.
Et pour le tournage, pour le coup, vous avez dû être protégé. Comment vous avez fait?
C'est au Mexique qu'on a fait attention. On n'est pas allé dans les zones les plus dangereuses. Certains journalistes très courageux s'aventurent et malgré les risques. Nous, aussi pour protéger nos interlocuteurs, c'était très important. On a réalisé pas mal d'interviews dans un appartement discret. On sait qu'on était surveillés, mais on a fait attention à protéger nos interlocuteurs. Parce que ceux qui restent au Mexique après nous avoir parlé, c'est ceux qui sont potentiellement le plus en danger. Nous, on rentre en France, on est bien moins en danger qu'eux. Donc c'était surtout eux qu'on voulait protéger. Et aujourd'hui, les dangers, c'est au Mexique.
Alors, ce documentaire sera suivi d'une émission avec Laurent Delahousse. Aujourd'hui, pour garder la part de ce documentaire, là, qui dure une heure et demie, vous avez tourné combien d'heures d'image?
Énormément. Puisqu'on a tourné une quarantaine d'interviews, je dirais bien presque une centaine d'heures d'images, peut-être 200 même si on compte tout ce qu'on appelle les évocations, c'est-à-dire toutes ces images qu'on a tournées pour reconstituer des moments du film qui n'existent pas en archive, que ce soit des moments de la vie de Pablo Escobar ou d'El Chapo ou de la French Connection. Donc oui, je dirais que c'est presque peut-être 200 heures de rush qu'on avait.
Et là, on choisit comment les moments, justement? Est-ce qu'il y a eu des débats passionnés à la production pour choisir certains moments plus que d'autres?
Oui, parce que par exemple, il y a des interlocuteurs qui sont de très très bons clients, comme les Américains en général, comme par exemple Steve Murphy et Javier Peña, qui sont les vrais policiers qui sont aussi dans la série Narcos. Et eux, ils nous livraient des pépites dans leur récit, et c'était difficile de trancher. Mais après, il y a le format qui l'impose, et donc on fait des choix, et finalement, on se restreint.
C'est une vraie fresque que vous allez découvrir demain soir sur France 2, Narcotrafic, la nouvelle guerre. Pour tout savoir de la French Connection à El Chapo en passant par Escobar, eh bien suivez cette grande fresque réalisée par Pauline Liétard qui est avec nous. Merci Pauline d'avoir été avec nous.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et bien on va se quitter avec un petit extrait justement de ce documentaire. C'est donc demain soir à 21h sur France 2, juste après Un si grand soleil. Belle soirée, merci Pauline.
Merci.
Cette nuit-là, les autorités américaines et mexicaines s'apprêtent à arrêter le plus grand baron de la drogue, le Mexicain Joaquim Guzman, surnommé El Chapo. Un homme traqué sans relâche depuis plus de 20 ans et qui vient d'être repéré avec ses hommes dans l'ouest du pays.
Ses téléphones étaient tracés.
C'était l'une des personnes les plus recherchées au monde. Son cartel était considéré comme la plus grande organisation de narcotrafic. Il produisait 10 tonnes de cocaïne par mois.
L'organisation d'El Chapo était basée sur la violence, l'intimidation et la corruption.
C'est un psychopathe comme Pablo Escobar.
Un homme capable d'autant de violence envers l'être humain ne mérite pas de vivre dans mon monde.
Et on passe à mercredi avec une nouvelle adaptation d'un policier de Fred Vargas, avec une adaptation très réussie de José Dayan qu'en sort La Recluse. En deux parties, vous découvrirez donc mercredi la première partie avec Jean-Hugues Anglade, notamment Sylvie Testu et Jérôme Kircher, l'histoire du commissaire Adamsberg et son second, Danglars, qui enquête sur la mort à quelques mois d'intervalle de trois vieillards. Ils ont été tous mordus par une araignée. Voici donc la bande-annonce.
Alors, Danglars, racontez-moi.
J'ai rien à raconter qui soit déjà dans le dossier. Vous l'avez pas lu ?
J'aime mieux que vous me racontiez.
Très bien. La victime, Laure Carvin, écrasée par un 4x4 rue du Château des Rentiers.
Quel château, quel rentier ?
Je ne sais pas, je peux chercher si vous voulez. Marié à un avocat, riche, propriétaire du 4x4.
Propriétaire d'un 4x4, déjà, moi je trouve ça suspect. Hein.
Un propriétaire de 4x4 et par conséquent soupçonné.
Par conséquent.
Je vous remercie, capitaine. Je reprends. Il a un alibi assez fragile. À l'heure du crime, il était dans une salle de jeux vidéo. Il prétend qu'il n'en a pas bougé de la soirée.
Mais alors, qui se serait servi de son 4x4 ?
D'après lui, l'amant de sa femme. On accuse toujours les maris, surtout quand il est antipathique.
Et juste avant de retrouver Mélanie Maudran, Les ruines d'un si grand soleil, on va continuer avec mercredi et Top Chef sur M6 et 5 candidats encore en compétition ont deux occasions de se qualifier pour la semaine prochaine et d'éviter la dernière chance. L'une en séduisant le chef 3 étoiles Arnaud Lallemand qui leur demande de réinterpréter une recette emblématique de leur région et l'autre en convainquant Hélène Darroze dans son propre restaurant à Paris avec une recette mettant l'œuf en valeur. Bande annonce.
La semaine prochaine, les 5 candidats encore en compétition vont s'affronter pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale.
Les quarts de finale, on en rêvait il y a quelques semaines et maintenant ça y est.
J'ai envie de gagner, j'ai envie de faire partie des 4 derniers.
Aujourd'hui la victoire elle est pour moi les gars.
Je pense que t'as pas beaucoup de chance mon vieux.
Et pour cela, ils devront d'abord séduire le chef triplement étoilé Arnaud Lallemand en modernisant un plat de leur région.
La Bretagne, ça vous gagne ?
Là, ça sent l'Anjou, grave.
Le Nord ?
Bien sûr, chef.
Le Nord !
Mais une surprise les attend. Ils sont loin de se douter que les chefs ont fait venir leurs proches.
Allez, un si grand soleil, on continue à en parler. Hein. Vous savez, c'est tous les soirs sur France 2. Le rendez-vous est à 20h45 avec Mélanie Maudran, qui est avec nous. Claire Estrella, qui fait son retour dans Chut, on écoute la télé. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, il en est arrivé de bien belle depuis le mois de septembre, depuis le lancement de la série où on s'était eu, bien évidemment. Et donc maintenant, Claire est infirmière.
Oui, en fait, elle l'a toujours un petit peu été, puisque quand elle est partie en Afrique 17 ans, elle exerçait là-bas et elle était dans l'humanitaire. Donc, c'est vraiment sa vocation, sa passion. Effectivement, quand elle est arrivée à Montpellier, dans un premier temps, elle a travaillé à la paillote parce qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir travailler, avoir son permis de travail. Et là, elle revient à ce qu'elle aime faire. C'est un personnage qui est très tourné vers les autres. Donc, c'est un métier qui lui correspond bien.
Alors les premiers, on va dire 2-3 mois, c'était vraiment une très grosse intrigue autour de la mort de ta sœur. Là, ça s'est allégé un petit peu, on te voit un petit peu moins. Ça t'a permis, toi, de souffler un peu? Parce que j'ose imaginer, sur le rythme d'une série comme ça, le nombre de séquences que t'as dû quand même t'enquiller pendant 3 mois.
Oui, ça représente un sacré nombre de séquences. Et c'est vrai que c'est finalement un rythme assez idéal pour un comédien. Parce qu'on a des périodes comme ça très très intenses où on est complètement impliqué dans le personnage. On l'aime même quand le personnage est moins présent, bien évidemment. Mais ça nous laisse des respirations à nous, comme aux téléspectateurs, mais à nous, à titre personnel, ça permet d'être sur un projet comme ça, avec un rythme si fort, tout en pouvant prendre soin de sa vie personnelle, en ayant éventuellement d'autres projets, pouvoir aller voir un petit peu ailleurs. C'est un cas de figure assez chouette, puisqu'on est investi complètement dans une aventure, mais qui nous laisse la liberté d'en avoir d'autres aussi à côté.
Alors, quand on s'est vu, la série, on était à ses premiers balbutiements, il y avait 3 semaines de diffusion, que la série ait pris aussi vite, qu'il y ait plus de 4 millions de fidèles avec les replays tous les jours qui vous suivent. Est-ce que ça t'a étonné qu'il y ait autant de monde qui vous suive et du coup ça a dû changer beaucoup de choses dans le regard des gens quand ils te croisent dans la rue par exemple aujourd'hui?
Je l'ai souvent dit, par rapport aux chiffres, on n'avait pas d'attente particulière. Évidemment, il y avait un seuil, il fallait pas passer en dessous d'un certain seuil de téléspectateurs quand même, on le savait bien. Maintenant, 4 millions, effectivement, c'est pas un chiffre sur lequel on s'était projeté. Et ça a été évidemment une excellente surprise. Et le fait que ça se maintienne, c'est encore mieux. Et d'avoir tous ces gens qui nous regardent, qui suivent la série, qui s'attachent aux personnages et qui s'y sont attachés aussi vite, fait qu'on a un retour très chaleureux posture en fait des gens, et c'est ça qui change. Enfin, évidemment, on peut pratiquer ce métier de comédien avec plus ou moins de notoriété, et être dans une quotidienne apporte une notoriété de proximité avec les gens, et ça c'est quelque chose qui peut être un peu effrayant puisque voilà, on n'est pas nos personnages non plus, mais là il y a énormément de bienveillance parce que je sais pas, les gens reçoivent cette série comme quelque chose qui leur fait du bien, c'est ce qu'ils nous disent en tout cas, c'est un rendez-vous familial, voilà, donc oui on est identifié dans la rue maintenant, mais c'est toujours avec beaucoup de gentillesse.
Quel est ton plus beau souvenir de tournage, Mélanie ?
Oh là là, ça commence à en faire beaucoup là, hein, mine de rien. On tourne depuis presque un an déjà. Le temps passe à une vitesse dingue. Bah, à l'image de ce qu'on joue en fait et de nos personnages, il y a des moments d'émotion, il y a des moments forts qui ont été joués, mais il y a aussi beaucoup de rire. On rigole beaucoup et donc beaucoup de fous rires. J'en ai pas comme ça en tête à vous raconter. Bon, on en parlait tout à l'heure avec Moïse, on en a eu quelques-uns. Avec mon fils Gary, n'en parlons pas. C'est peut-être avec lui que j'en ai le plus parce que on se connaît très bien. Et voilà, non.
Il s'est marqué, le petit haut, hein.
Ah, bah, lui, en deux secondes, il y a eu l'appréhension du début. Il me disait, je stresse parce que j'ai jamais tourné, voilà. Et bam, on a fait notre scène, première scène, et puis c'était parti. Et voilà, il m'en a plus jamais reparlé. Il est dans son élément, il est fait pour ça, il est excellent.
Je sais qu'il nous écoute de temps en temps, d'ailleurs, on l'embrasse s'il nous entend en ce moment. Mélanie, le futur de Claire Estrella, qu'est-ce qu'on peut imaginer ou qu'est-ce que tu aimerais? Que les auteurs t'écrivent, par exemple.
Alors, en fait, justement, j'essaye, je fais confiance aux auteurs qui m'ont écrit un très beau personnage, à qui il est arrivé des choses très fortes au début. Là, c'est plutôt dans une logique de vie normale, en fait, ce qui lui arrive, c'est-à-dire, elle a vécu des choses tellement intenses que maintenant, elle se reconstruit en tant que femme. Ça passe par son métier, par une réalisation personnelle qui passe pas forcément par un homme. Et ça, j'aime bien cette idée-là, que Claire Estrella, justement, là, soit dans une phase où elle a besoin de se recentrer sur elle-même, sur le travail qu'elle aime, sur les gens autour d'elle. Donc, peut-être d'être moins centrée sur elle-même, plus sur ce qui arrive aux autres. Voilà, non, je lui souhaite de rencontrer encore plein de... Bah, que ce soit des épreuves, que ce soit des choses de la vie, en fait, des choses qui soient crédibles. Puis voilà, quoi. En fait, c'est aussi un désir des producteurs de ne pas trop nous mettre dans la confidence de ce qui va nous arriver, pour pouvoir vraiment jouer l'instant, quoi. Voilà.
Est-ce que ça te laisse du temps pour faire un petit peu d'autres choses ? Est-ce que tu as pu réenclencher quelques projets après la pause que tu avais faite ?
Oui, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est comme toujours, ça prend beaucoup de temps. C'est des choses sur lesquelles moi je préfère toujours parler quand elles sont complètement concrètes. Donc voilà, il y a des projets qui viennent à moi, des choses qui m'intéressent, et puis j'espère que ça pourra se faire. Et par souci d'un emploi du temps qui pourrait correspondre, profite au maximum de cette aventure, et des fenêtres pour faire d'autres choses vont évidemment se présenter, et ce sera très bien aussi.
Mélanie Modran, Claire Estrella, Ainsi Grand Soleil, c'est tous les soirs à 20h45. Le rendez-vous est pris sur France 2. Merci beaucoup, Mélanie.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Adèle est enceinte. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'elle veut le garder.
Qu'est-ce que tu comptes faire ?
Tu mets la barre très haut.
Tu me connais, j'adore les challenges. Mais tu peux encore te dégonfler si tu veux.
Non, mais elle veut coucher avec moi, t'es d'accord ?
Bah ouais, on dirait bien, ouais.
Elle m'a demandé d'être sur un chantier tôt demain matin pour sa salle de bain.
T'en attends quoi ? C'est quoi cet embrouille là ?
Et jeudi, c'est deux nouveaux épisodes de Section de Recherche qui occuperont votre soirée sur TF1. Martin et ses équipiers enquêtent sur la disparition mystérieuse de trois membres de la famille Delisle.
Propriété des Delisle. Le type est un ténor du baron.
Ouais, je sais. D'ailleurs, le procureur nous conseille d'y aller avec des pincettes, hein, vu la pression médiatique.
Bon, tout le monde a disparu, hein. Le père, la mère, la fille. Ouais. C'est Frédéric Saunier, le tonton, le frère de la mère qui a prévenu la police. Il était invité à un dîner hier soir. Il aurait croisé le ravisseur.
Hier soir, il prévient la police juste au milieu de la nuit.
Attends, tu vas comprendre. Il a été assommé, il a émergé 4h du mat. Bon, la voiture de Jade, la fille et celle de la mère Emmanuel sont toujours là. En revanche, le 4x4 du père disparu.
Et vendredi, le pilote d'une toute nouvelle série sur France 2, Astrid et Raphaël, avec au casting Lola Devers et Sarah Mortensen. Histoire du commandant Coste qui enquête sur la mort d'un médecin qui s'est immolé par le feu et qui s'adresse aux archives judiciaires de la police. Elle y rencontre Astrid Nielsen, une femme brillante et déroutante atteinte du syndrome d'Asperger.
Mademoiselle ?
Oui ?
J'ai pas l'habitude, mais je vous trouve charmante. Ça te dit, on va prendre un café ?
Oui, je dispose d'une minute. Après, je serai en retard. Par contre, j'évite de boire du café. Vous devriez en faire autant. La torréfaction produit de l'acrylamide, une substance classée par l'OMS comme présentant des risques cancérigènes.
Wow, mais tu parles comme un livre, toi.
Les livres ne parlent pas. 30 secondes.
T'es une marrante, toi. T'as un 06 ?
06, un 06.
Ton numéro, quoi, un 06, d'où tu sors ?
06 58 89 42 22. Par contre, il y a peu de chances que je prenne votre appel car je ne prends jamais les appels des numéros non enregistrés au préalable. Voilà, terminé. Bonne journée, monsieur.
Mais attends, j'ai pas noté.
Allez, on se retrouve dans un instant avec Franck Monsigny et Léa François qui sont nos invités. Alors ne bougez pas. On revient, à tout de suite dans Chute, on écoute la télé.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, Plus belle la vie, évidemment, c'est le rendez-vous incontournable hein, des fans de la série, tous les soirs sur France 3. C'est presque 15 ans hein, de longévité, c'est absolument incroyable, ça fera 15 ans fin août. Et on a une de nos actrices préférées qui est avec nous. C'est toujours un plaisir de la recevoir, Léa François. Bonjour Léa.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie.
Et bien nous aussi, tu sais, comme on a plaisir à te recevoir à chaque fois. Alors Léa, c'est Barbara, évidemment, Barbara Evenot. Vous suivez ses aventures depuis plusieurs années. Alors là, vous avez été dévasté certainement en apprenant que Elias allait être emprisonné, que voilà, enfin bon, il en est tellement arrivé ces derniers mois.
Mais oui, elle a divorcé, elle est toute seule, elle est un petit peu perdue. Donc ouais, c'est vrai qu'il lui est arrivé des sacrées péripéties ces derniers temps.
Alors ça t'a donné vraiment une palette de jeux différents à jouer qui était assez hallucinante. On a eu peur pour toi, on a eu de la peine pour toi, on t'a suivi vraiment dans cette aventure assez incroyable avec Marco Ranier qui était formidable en plus hein, comme partenaire.
Ouais, complètement. Mais c'est ça qui est génial aussi dans Plus belle la vie, c'est qu'on a l'occasion de jouer vraiment une palette d'intrigues, d'émotions super grande quoi. Je sais qu'on a des phases de déprime, des phases de délire à la coloc, voilà, des divorces, de l'amour. Et encore bien d'autres choses à venir.
Ah oui, mais ça, je m'en doute. Bon, quand c'est que tu ouvres un restaurant ?
Quand est-ce que j'ouvre un restaurant ? Je ne sais pas, parce que quand même, je suis trop attachée au Mistral. Et je crois que Barbara aura du mal quand même à quitter Thomas, Roland et toute la team qu'elle affectionne tant. Donc, je ne sais pas si un jour elle se lancera vraiment à ouvrir son resto ou si elle continuera à s'appliquer à faire des petits plats pour nos Mistraliens.
Ça te donne envie, toi, de cuisiner plus, du coup, maintenant que tu n'arrêtes pas de jouer? Au contraire, ça t'a dégoûté, t'en as ras-le-bol.
Non, franchement, ça me donne envie. Des fois, j'ai des noms de plats à dire dans mes textes. Je sais même pas ce que c'est, du coup, je regarde. Après, je les retente chez moi. Non, franchement, c'est vrai, ça m'inspire.
En plus, tu partages beaucoup de scènes avec Maïra Tillian, ouais, qui joue le rôle d'Alison. C'est vrai que toutes les deux, ça matche super bien aussi à l'écran.
Ça matche super bien à l'écran. C'est vrai que j'adore la relation qu'ont nos personnages. Barbara, elle est un petit peu protectrice avec elle. Voilà, puis elle a fait filer droit un peu en même temps. Maintenant, elles sont ensemble dans la coloc en plus, donc c'est top. On va continuer de tourner ensemble. Et puis dans la vie, on s'entend trop bien aussi. Et c'est une super fille, donc vraiment, c'est ma super copine.
Alors toi, tu fais plein de choses aussi, hein, à côté de Plus belle la vie. Donc il y aura un meurtre aussi que t'as tourné en décembre, qu'on verra dans l'année 2019 hein, pour France 3.
Pour France 3, ouais, on a tourné ce téléfilm, un thriller qui passera. Je sais pas encore quand, mais je vous dirai ça quand je le saurai. On a tourné dans le Cotentin et c'était une superbe aventure. Je me suis éclatée.
T'étais un des duos d'enquêteurs, je suppose.
Ouais, tout à fait. Alors, j'étais pas vraiment enquêtrice ni flic, mais vous
verrez. T'es venu à la rescousse d'un enquêteur, alors.
Vous verrez ça quand vous découvrirez l'épisode. Je peux rien vous dire pour l'instant encore. Je laisse du suspense.
Bon, est-ce qu'on a un petit scoop à donner à nos auditeurs sur l'avenir de Barbara ?
Ben, franchement, là, c'est très compliqué de vous lâcher quelques infos.
Ça a des chances de vous revoir, Marco.
Pas tout de suite,
j'ai bien compris là.
Mais... Tant que les personnages ne sont pas morts, il y a toujours des chances de les revoir. Donc, je ne sais pas, mais enfin pour l'instant il est en prison. Donc, là, dans un avenir proche, en tout cas, ça me semble un peu compliqué. Après, on a déjà été surpris plus d'une fois dans les épisodes de Plus belle la vie.
Surtout dernièrement, avec le retour de Flavie Péan. Hein. Je suppose que comment justement s'est passé son retour, toute l'équipe?
On était trop contents. Moi, j'avais continué de la revoir en dehors des plateaux. Donc, c'était pas non plus des retrouvailles de fou. Et puis, en plus, on s'est pas trop croisés sur le tournage là ces derniers mois. Mais moi, c'est une super copine à moi aussi. Donc, j'étais ravie qu'elle revienne sur les plateaux de Plus belle, ouais, carrément. On est arrivés quasiment en même temps, en plus. Donc, c'était chouette.
D'autres projets, Léa, pour cette année? Du théâtre, du cinéma, télévision, peut-être autre?
Ouais, théâtre, c'est bien probable. à partir de septembre. Et puis après, il faut s'organiser avec les tournages de Plus belle la vie, parce que je sais qu'il y a encore des nouvelles choses qui arrivent avec le personnage de Barbara. Donc on étudie tout ça.
Bon, tu reviendras nous voir, ça fera l'occasion. Merci à toi Léa d'avoir été avec nous.
Ouais, merci beaucoup à vous de m'avoir reçu.
Et puis à très bientôt.
Avec grand plaisir.
Mousse, si on s'évadait.
Pour aller où ?
Eh ben tu verras, allez tout droit, fonce !
Oh Luna ma chérie, je suis très inquiète, là, rappelle-moi.
C'était ta mère ?
Ouais, enfin comment t'as deviné ? Je
trouvais ça normal qu'un centre de rééducation ne surveille pas ses patients ?
Tout le monde nous prend pour des handicapés, mais en fait on est des gueudins, tout le monde.
Mais ce sont des gens malades, ce sont des gens fragiles.
Ah putain.
Non mais tu te rends compte, t'aurais pu te blesser.
On est liés tous les deux, c'est comme ça.
Je comprends pas, Kevin. Moi, je croyais que t'avais tiré un trait sur cette fille.
Alors, ça vous parle ?
On cherche un braqueur en cavale, ça se peut qu'il traîne dans le coin.
J'ai rien à te dire, j'ai vu personne.
Elle a forcément vu Messaoud. Elle est toujours en relation avec le petit Bélessa ?
Je crois qu'il est toujours amoureux d'elle.
On tient à l'écart de l'opération, c'est plus prudent.
Attention, Messaoud est armé.
Messaoud, bouge pas !
Qu'est-ce que tu fous là ?
Il y a Jenny dans le bâtiment, là. Jenny ! Appelez le secours !
Allez, on va parler de Demain nous appartient. Vous savez, c'est votre série préférée sur TF1, hein, 19h20, du lundi au vendredi. Et on est avec Franck Monsigny qui nous a rejoint, alias Martin Constant. Bonjour Franck.
Bonsoir, vous avez vos papiers ?
Oui, pas sur moi, je suis désolé. Alors, je vais avoir le droit à un contrôle de police, moi encore, je le sens. Avec tous ces policiers que j'interviewe dans les séries quotidiennes, c'est terrible. Bon, comment ça va Franck ?
Ça va super bien.
Eh ben, en tout cas, nous, on est très heureux de t'accueillir. Le personnage de Martin nous fait des fois beaucoup rire, des fois il est dur. Comment tu le définirais, Martin ?
Mais à peu près comme tu viens de le dire, parce qu'il joue sur un grand écart de caractère. Martin, c'est quelqu'un de très droit, c'est quelqu'un qui par contre qui peut très vite vriller dans des côtés un peu plus obscurs et sombres et impulsifs. Donc Martin, c'est un gémeau, on sait pas, et puis faut pas se frotter à Martin, mais c'est quelqu'un de très gentil.
Ah oui, parce qu'il a des facettes. Alors il a vraiment la facette commissariat, ou les durs quand il donne des ordres à Karim, ça rigole pas.
C'est ça, puis c'est quelqu'un qui des fois est dépassé par ses émotions et qui sait pas les exprimer, quelqu'un émotionnellement qui sait pas encore bien se positionner.
Et oui, l'histoire avec Victoire. Alors cette histoire avec Victoire, puisque maintenant enfin, que tout le monde attendait évidemment, c'est Victoire et Georges au grand dam de Martin.
Tout le monde attendait Victoire et Georges ?
Ah, franchement.
Bon, OK, d'accord, c'est vrai. Bah oui, c'est une série sans enjeu amoureux. C'est pas une série, et puis les triangulaires amoureuses comme ça, c'est souvent assez savoureux pour les spectateurs.
Dis-moi, c'est quoi ton meilleur souvenir de tournage, Franck ?
Oh là là, j'en ai quelques-uns, mais je crois que c'était assez touchant pour mon premier départ. Si les gens se souviennent, Martin avait été écrit pour disparaître, et ce jour est venu quand on l'a tourné. Donc c'était assez émouvant, parce que comme c'était une série qui a démarré très fort, avec beaucoup de fraternité, beaucoup de bienveillance, on s'est tous très vite attachés les uns aux autres. Donc de les quitter, moi ça m'allait pas trop, et je savais pas, mais heureusement je revenais pas loin derrière, quoi.
Et puis les fans étaient là, t'ont demandé à corps et à cri, ont écrit, ouais. Et tout le monde était là derrière pour le retour de Franck. Moi j'ai vu des pétitions carrément.
C'est vrai ?
Ah, ouais, j'ai vu des pétitions carrément pour le retour de Martin.
Hein. Ils sont trop mignons.
Alors justement, comment tu as vécu ce changement ? Est-ce qu'une série quotidienne, on sait comment c'est, les gens ont l'impression de tellement vous connaître. C'est très difficile quand on fait une série quotidienne de pouvoir sortir dans la rue après normalement. Comment tu as vécu un peu ce changement ?
Ça a été juste un peu plus accentué parce que je l'avais déjà connu avec Falco, un petit peu, la série policière sur TF1 avant.
Sagamore.
Voilà, avec Sagamore Stevenin. Ouais. Et là, effectivement, bon, une série comme Falco, 6x52, c'est pas diffusé quotidiennement. Donc là, quotidiennement, on rentre dans l'univers des gens qui ont la sensation d'être nos amis, très clairement. Hein. Donc quand ils nous voient, ils prennent pas de gants, ils nous embrassent, ils nous prennent comme du bon pain. Salut. Donc c'est assez rigolo, parce que ça reste un public qui est pas agressif, parfois peut-être un petit peu intrusif, parce que c'est vrai que quand on se balade, on n'a pas toujours la disponibilité,
et
on
s'adresse plus au personnage, en plus c'est ça qui est terrible.
Ils s'adressent complètement au personnage et ils oublient qu'ils ont affaire à un homme. Donc bon, c'est pas bien grave, c'est le jeu, ça va, c'est gérable.
Bon, quand on t'appelle Martin, alors ça va, t'es pas vexé?
Je me retourne pas.
C'est ça, bah oui c'est ça. Bon, en tout cas, quel est ton meilleur souvenir de tournage ? Tu disais tout à l'heure qu'il y avait le dernier jour quand tu es parti. Mais est-ce qu'il y a eu un fou rire, quelque chose, une anecdote sur une scène que tu pourrais nous raconter là ?
Oui, bien elle a été diffusée. J'avoue que mon plus gros fou rire sur DNA, c'est quand Georges s'est étouffé avec des chocolats.
Oh oui.
Et qu'on lui a demandé de recracher tout sur un écran d'ordinateur, mais
dans le commissariat.
Il a pas réussi tout de suite, et le premier truc qu'il a sorti, qui s'est écroulé sur son clavier de bureau. Il nous a fait énormément, énormément rire avec Laure. Et après sa première chute, sinon parce que c'est sa cascade, qui ne maîtrisait pas tout de suite non plus, voilà, nous a laissé sur le carreau, littéralement. Là, on a découpé, puis on a fait une petite pause. Là.
Des scènes très drôles entre vous deux.
Mais bon, Martin, comme c'est pas un rigolo non plus, il n'est pas amené à faire des scènes de comédie assez souvent, mais celui-là, c'est un gros fou rire, ouais.
Est-ce que ça te laisse du temps pour faire d'autres choses? Est-ce que tu as des projets pour 2019?
Je mène des projets au théâtre. J'ai une pièce dont je suis auteur et comédien qui s'appelle Résistante, qui est en fin d'exploitation. Donc je prends le temps de la mener. Par ailleurs, je fais aussi pas mal de doublage. Et puis je me consacre quand même pleinement à DNA parce que voilà, quand on y est, il faut y aller.
J'ai envie d'en partir.
C'est bien de s'aérer. C'est comme une vie de couple. Voilà, allons faire un tour. On se retrouve avec d'autant plus de plaisir et c'est comme ça que ça marche bien, ouais.
Mais juste de s'aérer, pas de partir.
Non, pas de partir, non.
Bah nous, en tout cas, on l'aime comme ça, Martin. Franck Monsigny, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, on te souhaite plein de belles choses et on te suit évidemment dans le rôle de Martin. C'est tous les soirs sur TF1 à 19h20 dans Demain nous appartient. Merci, Franck.
J'ai rien à rajouter. Gros bisous.
À très vite.
Dans les épisodes précédents,
j'aime Samuel et j'aimerais qu'il fasse davantage partie de ma vie. Enfin, j'ai besoin de votre avis avant tout.
Il a rien à faire là.
Soraya et Nan sont pas très fans de l'idée, mais
c'est pas mon problème.
Bon, écoutez, oui, j'étais un connard. Mais je fais des efforts et je compte bien continuer à en faire. Vous pouvez pas dire ça à Soraya.
Je suis pas votre avocat, j'ai pas à vous défendre.
Combien tu veux?
Gardez votre fric. J'ai pas envie de faire ça à Bart. Je l'aime.
Je sais que c'est faux.
Pensez ce que vous voulez. Bart et moi, c'est beaucoup plus qu'un flirt.
J'ai peut-être une solution pour régler le problème. Mais c'est illégal.
Je refuse que Bart foute sa vie en l'air pour ce type.
Réfléchis bien. Si Bart apprend que t'as trafiqué derrière son dos, il va t'en vouloir.
Je prends le risque.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain, les amis, on se retrouvera bien évidemment pour un tout nouveau numéro inédit de Chute, on écoute la télé, consacré en partie à Candice Renoir. Candice Renoir qui fait son grand retour pour une saison 7 inédite. À cette occasion, nous recevrons Raphaël Langlais et Cécile Bois qui seront nos invités exceptionnels. Nous reparlerons également du duo de flics de Plus belle la vie puisque Régis Ménard et Lola Marois seront également nos invités. On parlera également de Péril au château, actuellement tournage en Charente avec Claire de la Rochefoucauld, la réalisatrice de ce téléfilm actuellement en tournage dans notre région. Et puis plein d'autres surprises, bien évidemment. Alors surtout, restez connectés sur notre page Facebook. Chute, on écoute la télé pour en savoir plus.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine pour Chute en écoute la télé, la quotidienne sur Radio Bulle dès 11h. Et puis en attendant, je vous donne rendez-vous évidemment dès lundi prochain à 19h pour la grande hebdo. Alors d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chute en écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.